Voilà, j'aimerais pendant quelques dimanches faire une série sur une étude sur le tabernacle. En étudiant la première série pour vous l'apporter, j'ai vu, enfin déjà en amont j'avais déjà lu, mais là en plus en étudiant pour vous apporter ce que j'avais à vous apporter, j'ai trouvé que c'était vraiment, c'est tellement riche. Vous savez, parfois, je crois qu'on lit la parole, bon, c'est une bonne chose, hein, quand on lit la parole, qu'on veut suivre la lecture biblique, journalière. Et on sait que si on s'applique à faire le plan de lecture pendant une année, en un an, vous avez lu la Bible. C'est bien, parce que ça vous permet de connaître la parole, et puis de pouvoir vous orienter, enfin, de comprendre certaines choses, plutôt que de lire au pif comme ça, des fois, bon, je ne dis pas que Dieu ne parle pas quand on lit comme ça, mais bon. Mais je crois qu'il est important aussi parfois de s'arrêter sur certaines choses, sur certains passages qui ont à nous enseigner. La Bible, vous m'avez souvent entendu le dire, la Bible dit, enfin il est écrit dans la Bible que toute écriture est inspirée de Dieu. Et en voyant ensemble la série du tabernacle, nous verrons la tente dans le désert, la tente du tabernacle, ce qui entoure, ce qui est dessus, ce qui est à l'intérieur. On verra la cour avec la cuve d'airain, le lieu du sacrifice. On verra aussi le souverain sacrificateur. On verra toutes ces... Et ce sont tous des symboles qui nous ramènent sans cesse à Christ. Alors on ne le voit pas forcément comme ça, ça semble tellement exigeant, Dieu donne des dimensions précises, sauf que le plan de rédemption est exigeant. Dieu venant sur terre à travers l'œuvre de Jésus, à travers la personne de Jésus, Dieu a été exigeant au point qu'il le fallait du sang. Sans effusion de sang, point de pardon. Et dans notre nature humaine, nous sommes peut-être parfois très légers. Nous avons une certaine conception hein, dans des détails, hein, qui sont pour nous des détails, dans la vie au quotidien. Hein, il y a des choses qu'on va faire, tiens, on va balayer ici, on va balayer là, on va laisser des choses comme ça. Sauf que avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Et Dieu est un Dieu exigeant, certes, mais un Dieu qui a demandé une exigence parce que pour notre salut, il fallait un prix exigeant. Voilà. Et le salaire, la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort et il fallait quelqu'un qui soit au-dessus de toutes ces choses pour pouvoir payer pour chacun d'entre nous. Alors, le tabernacle, en fait, nous verrons ensemble, mais que représente le tabernacle, ça nous allons le voir, mais il était une image, nous dit dans l'Épître aux Hébreux, je ne vais pas vous, parce que sinon on va perdre du temps à donner tous les versets, mais si vous les voulez, je vous les donnerai. Dans l'Épître aux Hébreux, il est écrit que c'était l'image et ombre des choses célestes. Les images des choses qui sont dans les cieux. Et en imitation du véritable. Une ombre des biens à venir. Donc c'était une représentation, une image des lieux célestes. Voilà pourquoi il y avait tant d'exigences. En fait, le tabernacle, c'était une demande divine. Dans l'Exode, au chapitre 25 et au verset 8, il est écrit « Ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Quel privilège, frères et sœurs, de savoir que, en fait, Dieu est au milieu de nous. Dans La Genèse, dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 65, il est écrit « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » C'est ce qui fait toute la différence entre le chrétien et celui qui est adhérent. Celui qui a une étiquette de chrétien. Être chrétien, être un vrai chrétien, chrétien, ça veut dire petit Christ. Ça veut dire qu'on doit avoir en nous, eh bien, le Christ en nous. Alors là, on ne le voit pas, mais il n'y a que nous qui le savons, et Dieu, dans nos pensées. Et parfois, nos pensées s'expriment en paroles. Dans le fait de regarder les gens comme ça, prêts à les assassiner. Dans nos comportements. Un chrétien doit se voir à travers donc nos yeux, à travers nos propos, ce qu'on peut écouter, ce qu'on peut faire et ce qu'on peut dire. Et le vrai chrétien, donc, c'est celui qui a été touché, interpellé par Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela lui a été donné de la part, lui a été donné par le Père. En fait, le chrétien vit le miracle dès l'instant où Dieu vient le chercher, vient l'interpeller. Jean 14, 17 nous dit « L'esprit de vérité ». Que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, même si dans quelques jours c'est Noël. On le voit bien. On va faire la fête, on va manger la dinde farcie, enfin tout ce que vous voulez, tout ce qui est farci ou pas d'ailleurs. On va faire le sapin et tout ça. Mais où est la place de Christ? Alors il y a bien la messe de minuit pour certains, mais où est le Christ? On a sorti le petit Jésus du placard. On va le dépoussiérer parce que, bon, ça fait un an qu'il était déjà dans le placard. Mais là, on va le remettre, voilà, le 25, parce que c'est la tradition, ok? Même si Jésus n'est pas né un 25 décembre, nous le savons, puisque c'est en hiver. Alors que nous n'avons pas la date précise, mais il semble que Jésus soit né au printemps plutôt qu'en hiver. Et il ne le connaît point. Mais vous, c'est-à-dire le peuple de Dieu, vous le connaissez. Pourquoi? Car il demeure avec vous. Il sera en vous. Vous savez, frères et sœurs, quand on prend conscience, quand on réalise que Dieu est avec moi et en moi, alors ma vie doit réellement changer. Si j'étais un homme violent, je dois régler ces choses en disant « je ne veux plus être dans la violence ». Si j'étais un adultère, je deviens fidèle. Si j'étais un alcoolique, je dis, Jésus, j'ai besoin de la délivrance. Je ne veux plus être alcoolique. En fait, ma vie passée, c'est passé. Je suis devenu une nouvelle créature. Et je réalise, même après être passé par les eaux du baptême, je réalise, je dois prendre conscience, frères et sœurs, même si le matin, quand je me lève, je ne l'entends pas. Mais selon la parole, que Christ habite en moi, ne savez-vous pas que vous êtes devenu le temple du Saint-Esprit? Jean 14, 20. On va venir après, hein, au tabernacle, ne vous inquiétez pas. Mais c'est en relation, on ne peut pas faire autrement. Jean 14, 20, il est écrit, « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père. » Écoutez bien, « que vous êtes en moi et que je suis en vous. » Celui qui... Ah, mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de qui? De mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Toujours dans le même chapitre, mais au verset 23, il est écrit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Hein. C'est pas... que pour les disciples, les apôtres. C'est pour moi. Moi, j'ai mis des petits cœurs. J'ai souligné, j'ai mis des cœurs. Parce que quand je mets un cœur, c'est parce que ça m'a... Je réalise que Dieu habite en moi. C'est pas le tout de le savoir d'une manière intellectuelle. Mais de le réaliser, que Dieu habite en moi. 24 heures sur 24, même pendant mes jours de congé. En fait, pourquoi Dieu a voulu le tabernacle sur terre? Parce que depuis le début... Le grand désir de Dieu, c'est d'avoir une habitation parmi les hommes. Il a habité avec l'homme dans le jardin d'Éden, puis dans le tabernacle, puis dans le temple à Jérusalem, et finalement dans la personne de son Fils, et maintenant, il habite dans les croyants. Dieu dira, ce n'est pas une recommandation, c'est un ordre. Regarde, nous revenons au tabernacle, et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Exode 25, verset 9. C'était parce que ces choses avaient une signification spirituelle qu'elles devaient absolument être faites en suivant le divin modèle. Le plan du tabernacle, comme le plan du salut, venait exclusivement de Dieu. C'est pour ça que les œuvres que nous pouvons faire, quand les gens ne comprennent pas que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, ils sont prêts, là, ça m'a énervé. Quand j'ai entendu ce témoignage, ça m'a... Alors, il y a un religieux, oh, le brave homme, il a légué tous ses biens à sa mort. C'est sûr qu'il n'y avait pas de souci. Hein. Avant sa mort, il a légué tous ses biens. Ça va, tranquille, quoi. Alors, après, on est comme ça, on est presque l'admiration parce qu'il a légué tous ses biens à sa mort. Mais alors, quel effort il a fait ? Il n'avait plus besoin puisqu'il allait mourir. Non, mais vous comprenez ? Voilà. Alors, bien sûr, combien de gens font ceci, font cela pour essayer de s'attirer les faveurs du ciel ? Les faveurs du ciel. Sauf que la Bible nous enseigne que nous sommes sauvés par grâce. Éphésiens 2.8. Ce qui ne veut pas pour autant dire que, voilà, si je vois mon frère qui est dans le besoin, dire « Que Dieu te bénisse !» Voilà. Allez ma chérie, on va au resto. Hein. Ça fait mal, hein. Non, nous sommes appelés aussi à faire des œuvres. Mais ce n'est pas les œuvres qui nous sauvent. Et les opinions et les raisonnements humains, il n'y avait aucune part dans la fabrication du tabernacle. Ce qui comptait, c'était la parole du Seigneur. Dieu va choisir un homme pour exécuter son œuvre. Betsalel. Betsalel était un homme qui avait été choisi par Dieu et un homme qui peut-être sans doute dans un premier temps était un artisan qui avait, comme on dirait, je ne sais pas si ça se dit par chez vous, mais chez nous ça se dit des doigts en or. Mais il y avait son tempérament, ce qu'il avait appris. Mais Dieu voulait autre chose que sa personnalité. Il voulait que ça soit l'œuvre, l'Esprit de Dieu qui le conduise, qui lui donne les détails précis et qui sache faire en sorte que ce que Dieu avait demandé soit fait, eh bien, au millimètre près, sans y mettre un talent humain. Betsalel signifie « dans l'ombre de Dieu ». Quel beau prénom. Betsalel, en fait, est un type du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est celui qui est dans l'ombre de Dieu, qui agit en nous, qui conduit son peuple, qui façonne l'Église, qui dirige l'Église, qui encourage, qui console les cœurs, qui donne de reprendre vigueur, qui apporte un mot de tendresse. Le Saint-Esprit, c'est celui qui peut être attristé lorsqu'on est on a désobéi à Dieu et il nous montre, nous le ressentons, qu'on n'est pas bien. En fait, ce n'est pas qu'on n'est pas bien, c'est que le Saint-Esprit t'a attristé. Et quand d'un cœur sincère et vrai, on dit « Seigneur, je te demande pardon. Tu vois ce trait de caractère, voilà, ou peut-être un mot, ou peut-être j'ai écouté, j'aurais pas dû, une pensée, voilà. Seigneur, aie pitié. » Et on sent que l'Esprit de Dieu revient, pas forcément tout de suite. Mais avec le temps, le Saint-Esprit nous conduit. Il nous conduit dans sa parole pour y retrouver du réconfort. Et puis une direction. Et même parfois, il est arrivé qu'un chrétien chute. Le Saint-Esprit vienne lui parler pour le ramener à la raison. Reviens, reviens. Et on y sent toute la tendresse de Dieu. Parce que le Saint-Esprit œuvre dans les cœurs avec douceur, avec tendresse. Et chacun à son niveau. Je vois, il y a le frère Alex, qui est un Serbe. Ils ont leur culture, les Serbes. Ils ont un passé, les Serbes. Ils ont une histoire tragique aussi. Notre frère qui n'est pas là parce qu'il est à La Rose, il était invité, je pense à comment il s'appelle ? Je suis en train de faire ça. Je suis en train de vous faire ça. Là. Je suis en train de réaliser que je suis en train de... Jean Bosco, qui est rwandais, il a son histoire. L'histoire de sa culture, des massacres. Et combien d'autres ? Nous avons tous notre histoire. Donc le Saint-Esprit n'agit pas. Bon, allez hop, on fait un paquet. Vous en êtes combien là ? Allez, 30 ? Bon, allez, pour tout le monde pareil. C'est pas comme ça que ça se passe. Le Saint-Esprit arrive. Il parle. Vous vous rappelez ce qu'il a dit Joël Dieu l'autre jour, dimanche dernier ? Je ne sais plus si c'est dimanche, vendredi ou samedi, enfin peu importe. Il a donné ce témoignage. C'était tout au début qu'il venait à l'église. Alors il avait dit, sauf erreur de ma part, il avait dit, il s'était assis dans le fond, je crois. Et puis il avait dit en quelques mots, alors j'ai plus les mots précis, hein, à Dieu, Seigneur, si tu veux me parler, sers-toi de cette personne. Il avait désigné quelqu'un dans l'assemblée où il était, et il y a eu un don spirituel, et c'est cette personne qu'il avait désignée qui a donné l'interprétation. Merci. Vous voyez comme quoi Dieu, il écoute, il va même dans... on est tous différents. Et Betsalel, donc le type du Saint-Esprit, est celui qui a œuvré, Dieu avait... C'est le Saint-Esprit qui qualifie les uns et les autres. Les ministères dont les pasteurs, les évangélistes. Vous avez vu qu'il n'y a pas un pasteur qui est capable de prêcher comme l'autre ? Mais tous différents, tous. Vincent, quand il prêche, mais il est différent de moi, et heureusement hein, qu'il n'est pas comme moi, parce que le pauvre. Hein. Jean Bosco, quand il prêche, mais il est différent de moi. Mais c'est normal. Mais même si on est de la même famille, on a tous notre sensibilité. Et puis, pour chacun d'entre nous, heureusement que le Saint-Esprit ne s'arrête pas qu'au pasteur, parce qu'il est pauvre, hein. Le peuple de Dieu, les pasteurs, les chrétiens, voilà. Enfin, en fait, je veux juste rétablir quelque chose. Pendant un temps, je disais, Seigneur, je veux être un vrai pasteur. Enfin, je ne sais plus comment je disais, mais du style, Seigneur, je veux être un vrai homme de Dieu. Maintenant, je change ma prière. Je dis au Seigneur, je vais être un vrai chrétien. Parce que pasteur, c'est un homme qui est... Voilà. Et j'ai réalisé en disant, mais pourquoi je dis un pasteur, enfin être sensible, ceci, ceci. Oh, oui, non mais il dit plutôt un vrai chrétien. Alors je vais être un vrai chrétien. Amen. Enfin, je l'étais avant. Hein. Il faut que ça continue. Je veux vous rassurer aussi. Il est écrit que dans l'Exode 30, nous découvrons que chaque homme devait payer un demi-sicle en rachat pour son âme. Et dans Exode 38, nous apprenons que cet argent expiatoire, le prix des âmes, devait servir à fondre des bases sur lesquelles devait reposer tout l'édifice du tabernacle. En fait, dans la semaine, j'avais préparé des images, des beaux dessins. Je m'étais même dit, tiens, je progresse. Puis ce matin, je vois ma fille me dit, mais papa, c'est pas maintenant qu'il faut faire ça, c'est trop tard. Alors, je voulais vous montrer les images, mais Dieu voulant, si le Seigneur nous prête vie ou si le Seigneur n'est pas revenu, donc dimanche prochain, vous aurez des images. Mais là, nous sommes, si vous voulez, dans ce qui fait la tente du tabernacle. La tente du tabernacle. Et la tente du tabernacle était entourée de pièces de bois. Qui, celle-ci, était se reposait donc sur des bases d'argent. Et nous allons le voir dans la suite, étaient bien attachées les unes aux autres. Et ces bases donc constituaient le fondement de telle sorte que le tabernacle reposait littéralement sur l'expiation. Vous comprenez ce que je veux dire ? Chacun devait donner un demi-cycle. J'ai mis où ça ? Et puis je me suis perdu. Voilà, un demi-cycle en argent. Et l'argent représente ici, eh bien, l'expiation. Et nous avons besoin, frères et sœurs, parce que nous allons comprendre après que les planches, c'est chacun d'entre nous. Et en fait, ces planches devaient reposer sur l'expiation de Christ. Si nous sommes ici, c'est parce qu'un jour, Christ a donné sa vie sur la croix. Et l'Église de Christ ne repose pas sur une philosophie, ne repose pas sur de bonnes œuvres, elle repose sur le sacrifice de Christ. L'Église est née à partir du sacrifice de Christ. Quand Christ était là, il a fallu que Dieu donne sa vie, pour que nous puissions être rachetés et sauvés. L'argent symbolise donc la purification. Il y avait, deux socles sur lesquels une planche reposait. Et elle nous parle de fondement, mais aussi de séparation avec le monde. Les bases aussi sont les uniques bases de l'Église. C'est-à-dire que les planches reposaient sur ce cycle en argent, l'expiation. Il y avait une séparation entre les planches et le sol. Le sol nous rappelant le monde. Et le socle nous rappelant la mort de Christ sur lesquelles l'Église est bâtie. Les planches sont donc des types du pécheur racheté. Éphésiens 2, chapitre 2, versets 1 à 3. Nous dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Amen. Les planches avaient été faites de bois d'acacia. Et là aussi, le bois d'acacia est tout un symbole par lui-même. Le bois d'acacia est un bois qui, lorsque l'arbre d'acacia est planté en terre, est profondément enraciné dans la terre, dans le sol. Et ça nous parle aussi. En fait, le bois d'acacia représente notre personne, notre vieille nature, l'humanité, qui est profondément enracinée dans l'esprit de ce monde, dans le péché, depuis le jardin d'Éden. Ou plutôt à partir du jardin d'Éden. Et le monde est enraciné. Et la particularité du bois d'acacia, c'est que non seulement il est enraciné profondément, mais c'est un bois épineux. Combien de gens se sont piqués dans ce monde? Combien de gens viennent dans l'Église, sont blessés, sont meurtris à cause de ces épines? Et puis, l'écorce est rugueuse. On pourrait dire aussi que comme la peau est tannée, dure, à force de prendre des coups, à force d'avoir donné des coups, ou de prendre des coups. Voilà ce qui est l'image du bois d'acacia. Et lorsque nous venons à Jésus, alors que nous sommes le bois d'acacia, Dieu vient nous arracher de ce monde, vient nous déraciner de ce monde, pour nous enraciner en Christ. En Christ. Avant d'utiliser ce bois d'acacia, il faudra le couper. Le couper. Couper, ça fait mal. Ça fait mal d'être coupé. Et pourtant, il nous faut être coupé du monde. On ne peut pas se dire chrétien aujourd'hui, le dimanche matin, et puis dimanche après-midi, je ne sais pas si j'y vais ou si je ne vais pas, mais enfin à partir de lundi, je retourne dans le monde. Je vis à la colle, je bois plus que de raison, je fraude, je magouille, enfin je fais tout ça. On ne peut pas être un pied dans le monde et un pied dans l'Église, en Christ. C'est soit l'un, soit l'autre. Tu n'es plus bouillant. Amy, j'aurais préféré que tu sois froid plutôt que tiède. parce que je te vomirai. Et frères et sœurs, chers amis, il est temps à ce jour, en ce jour, de réaliser que ce n'est pas parce qu'on peut être gentil avec les gens, ce n'est pas parce qu'on peut être agréable qu'on fasse un gros chèque pour l'offrande. Ou parce qu'on est prêt à porter les sacs de commission à la mamie de mon étage, que, voilà, on peut dire de bonnes choses sur moi, même si c'est vrai. On peut avoir un excellent tempérament. Et dire, je suis chrétien, mais je suis chrétien à ma manière. Il nous faut accepter d'être coupés avec ce monde. Les choses passées doivent être passées. Oui, ça fait partie de l'histoire de ma vie, mais je ne dois plus avoir de relation avec les choses du passé qui m'ont entraîné loin de Dieu. Loin de Dieu. Et puis, le bois, avant d'être utilisé, devait sécher. Dans le psaume 32, verset 4, est écrit « Nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse. La sève qui animait ma vie avant, qui m'attirait vers les choses du monde, ne doit plus avoir de sève à travers ce monde. La sève qui est en moi doit être la sève du Christ. De Christ. Et puis ce bois devait être nettoyé. Devait être nettoyé parce que il est sale. Quand on est novice, avec une tronçonneuse, on est prêt à couper n'importe quoi. On se sent fort, on a une tronçonneuse, on coupe. Sauf que quand on... Ça vous fait rire parce que vous pensez à quelqu'un. Hein? Non mais j'accepte de... Je ne dis pas à qui vous pensez, mais je comprends, je le sens. Et puis avec expérience, vous apprenez que vous ne coupez pas l'arbre à ras du sol. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut le couper en hauteur. Enfin, pas non plus à ce niveau-là. Hein. Mais à plusieurs dizaines de centimètres du sol. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il pleut, la terre, des petites impuretés, des fragments de petits cailloux, tout ça, vont se projeter sur l'écorce. Et du coup, lorsque vous mettez la tronçonneuse en route, oui, ça va couper. Mais alors votre lame ne va pas faire long feu. La chaîne, enfin, oui. Ça ne va pas faire long feu. Et vous allez ainsi abîmer votre lame. Et puis, il y a un temps pour couper le bois. On ne le coupe pas n'importe quand. Donc, il y a un temps avec Dieu. Il faut être nettoyé, lavé, purifié par l'eau de la parole. Vous savez, quand on vient à l'église, on n'est pas... ça y est, je décide de devenir chrétien. Et puis, on peut être sincère, c'est vrai. Mais franchement, honnêtement, est-ce qu'on n'a pas des choses à nettoyer? Parce qu'on ne s'en rend pas toujours compte. Un jour, j'ai parti faire une visite et puis j'attendais. C'était un petit couple de personnes âgées. Je les laissais tous les deux. Puis moi, j'attendais parce qu'elle était hospitalisée alors chez le mari. Puis je les laissais tous les deux. Voilà. Puis moi, j'étais dans le jardin, dans le parc. Là. Puis je regardais un paysan là, qui était avec son tracteur, avec le godet qui était devant. Il était dans son champ. Qu'est-ce que vous avez comme image du paysan? Il laboure, il sème, il moissonne, enfin pas avec une tracteur, avec une moissonneuse plutôt. Hein, enfin bon, il a du matériel agricole, vas-y! Mais pas du tout. Et je le regardais faire. Il était dans son champ avec son tracteur, le godet vers le bas. Il descendait de son tracteur et toutes les grosses pierres, les prenait, boum, boum, il mettait ça dans le godet. Pourquoi? Parce qu'il ôtait les pierres qui pouvait abîmer son matériel, et puis bah, qui donnait moins de performance quant à la semence. Il faut un temps, frères et sœurs. Il faut accepter ce temps de séchage, de nettoyage. Pourquoi ? Parce qu'après, comment il s'appelle ce brave-là, comment j'ai dit tout à l'heure, Belsalel, donc il veut dire... Nous l'avons dit tout à l'heure, dans l'ombre de Dieu, c'est bien, vous suivez mieux que moi. Eh bien, il donnait ses consignes, parce qu'il avait des gens autour de lui, comme le Saint-Esprit appelle les uns les autres, selon son désir. On est bien d'accord. Que fallait-il faire? Eh bien, il fallait mettre les planches, poncer les planches, bien les couper, toutes à la même dimension. et poncer les planches finement. Pourquoi ? Parce qu'après, on y mettait les plaques d'or. Les plaques d'or. Et il fallait que la planche soit... Mais j'ai oublié de vous dire quelque chose. Vous savez, tout à l'heure, on me disait que le bois était tortueux, l'écorce était rugueuse, il y avait des épines, et que l'acacia était plantée profondément en terre. Moi, quand je me suis marié avec ma femme, elle m'a fait découvrir, ou c'était quand on était fiancé, je ne sais plus, elle m'a fait découvrir quelque chose. Le beignet d'acacia. Aïe, aïe, aïe. Avec un petit peu de sucre dessus. Aïe, 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 ma fille. Comment sont les fleurs d'acacia? Quelle couleur? Qui a dit blanc? Cheux. C'est bien, Jean. Elles sont blanches. Et en fait, tout à l'heure, j'étais en voiture et j'étais en train de penser à ça, aux fleurs d'acacia. Je me disais, mais en fait, moi, ça me parlait parce que, enfin, je ne sais pas si ça va vous parler, mais j'ai lu aussi dans la parole que Dieu dit qu'il a mis en nous la pensée de l'éternité. C'est-à-dire que même si on est profondément enraciné dans le monde, les gens, l'humanité, peut être profondément enraciné dans le monde, tortueux, piquant, rugueux, il y avait malgré tout la pensée de l'éternité. C'est pour ça qu'on va fêter Noël. Parce que les gens sont quand même attachés à ces... Bien sûr qu'on est content. Il est content, il a son cadeau. Mais oui, le petit a son grand-père. Mais bien sûr, derrière, au-delà de ça, il y a le côté aussi religieux. Parce que malgré tout, les gens, ils y sont quand même attachés quelque part. Donc la pensée de l'éternité. Ce qui ne fait pas de ces gens des gens sauvés, puisqu'ils ont besoin de la révélation de Christ. On en revient donc à nos planches. La cassette était coupée en lattes. En planches plutôt, nettoyées. Et puis, ces planches, donc, sont toutes un symbole, elles-mêmes, toutes de la même hauteur. Et elles étaient recouvertes d'or, symbole de la gloire qui se révèle dans la justice, symbolisant Christ, la sainteté, la vérité, sa sagesse, sa puissance et son amour, d'une grande valeur, incomparable. Mais les planches qui entouraient le lieu saint et le lieu très saint, avaient une particularité, elles étaient mises à la verticale. Et surtout pas à l'horizontale. Pourquoi ? Il y avait aussi un symbolisme derrière cela. Si les planches pouvaient parler, elles se seraient dites les unes aux autres, c'est nous qui portons les autres. Et les autres auraient pu dire, nous dominons sur les autres qui sont en dessous. Or, dans l'Église, bien sûr qu'il y a un pasteur. Bien sûr, il y a des anciens. Bien sûr, il y en a, ça fait 30, 40 ans, peut-être plus, qu'ils sont convertis. Il y en a, ça fait peut-être 6 mois. Mais quoi qu'on dise, un homme qui a été déraciné, un homme qui a été mis en planche, comprenez le symbole, nous sommes en réalité tous mis au même niveau, à la même hauteur, les uns à côté des autres. Il n'y en avait pas une qui était plus que les autres. Dans Philippiens 2:3 nous dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Tout le monde au même niveau. Et puis, ces planches, avaient... Alors c'est pour ça que je n'ai pas les images, mais croyez-moi, hein, je ne dis pas des choses comme ça parce que ça me fait plaisir, parce que je vous dis, tiens, voilà. Les planches, elles étaient reliées les unes aux autres par des barres. En fait, il y avait 5 barres. Les planches, je rappelle, elles se reposaient sur des socles en argent qui nous parlent eh bien, du prix de Christ, le prix payé. La planche représentant notre personne, sous notre personne, notre vieille nature qui a été rachetée par grâce, nous sommes recouverts de la personne de Christ, et les unes aux autres forment l'image de l'Église. Même niveau, même hauteur, même format. C'est pour ça qu'il y avait une exigence. Et ces planches, elles étaient non seulement tenues sur des socles, avec des tenons au sol. Et les tenons, en hébreu, ça veut dire main, une main. Quel symbole ! Dieu nous tient par sa main, tient l'Église par la main. Et puis ces planches qui étaient les unes à côté des autres, étaient donc reliées entre elles, fixées entre elles pour qu'il y ait bien qu'elles tiennent comme il faut, qu'elles fassent une bonne fondation, par 5 barres. 4 barres qui se voyaient à l'extérieur et 1 barre qui était à l'intérieur, qui passait dans les planches. En fait, on peut donner un symbole à ces 5 barres. La première barre, le Père. La deuxième barre, le Fils. La troisième barre, la parole. La quatrième barre, l'Église. Et celle qui passait dans le centre, sans être vue, le Saint-Esprit. Il y a tout un symbole. Vous comprenez maintenant combien c'est riche. Éphésiens 2, verset 20 à 22. Éphésiens 2, je vais bientôt terminer. Hein. Vous pouvez vous relâcher. Enfin, vous relâcher. Vous ne pas vous regarder la montre. Hein, ça va bientôt. Voilà. Alors, Éphésiens 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Voilà, s'il vous plaît. Et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, en lui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et 4:16 nous dit, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné est formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Et puis, dans les angles, il y avait des planches qui étaient doublées. Et oui, c'est normal, c'est comme la pierre. Ceux qui construisent des bâtiments, du dur, on sait bien que dans les angles, résistant que le pan de mur. Voilà, les deux parties viennent se relier. Et là, c'était les planches. Et les planches, donc, étaient dans les angles, elles étaient doublées, et en haut de la planche, il y avait un anneau. Comment ne pas imaginer, de faire le rapprochement avec l'alliance, la nouvelle alliance, l'ancienne et la nouvelle alliance. Cet anneau, l'alliance. Dans Hébreux 9, 15, il nous est dit, « Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. » Et puis, il y a l'installation. Exode 40, verset 2, à quel moment ça a été installé le tabernacle? Est-ce que Dieu a dit, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? On va faire le tabernacle. C'est pas comme ça, vous savez bien que Dieu ne fait pas comme ça. Dieu ne se trompe jamais, il y a un timing avec Dieu. Dieu est un Dieu de précision. Rien n'est fait au hasard avec Dieu. Dieu ne se lève pas le matin, enfin il ne se lève pas, il ne dort pas, d'ailleurs, il ne dort il veille, ni ne dort, celui qui veille sur Israël, voilà. Mais Dieu ne se dit pas, oh là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça. Mince, je me suis trompé. Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe jamais. Alors dans Exode, on en arrive à la fin, Exode 40, verset 2, il est écrit, « Le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation. » Le premier jour du premier mois. Moi, ça m'a fait penser, vous savez à quoi? Au 1er janvier. Ah oui. Le top départ. Mais je serais tenté, je suis même pas tenté de vous le dire, je vais vous le dire. N'attendons pas le 1er janvier. Pour dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je deviens un vrai chrétien. Mais il y a du temps à passer entre aujourd'hui, on est le 5 aujourd'hui, c'est ça? Au 1er janvier. Moi, je ne sais pas si je serai toujours en vie tout à l'heure. Hein. J'ai des projets. Hein. J'ai le projet de venir à 16 heures. Il y a l'évangélisation après. Mais personne ne sait ce que demain sera pour sa vie. En fait, c'est une prise de position, c'est-à-dire aujourd'hui, Jésus, je veux que tu habites en moi. Ou que je veux à nouveau, Jésus, te laisser sensible. Je veux à nouveau être sensible à ta voix. Je veux à nouveau marcher dans tes voies. La conclusion, le tabernacle donc ne fut pas dressé dans le but d'être une démonstration de comment dirais-je, de l'artisanat humain. Il serait passé sur TF1. Non, le but était d'être une maison de Dieu. 1 Corinthiens 3, 16, vous êtes le temple de Dieu. Dieu voulait habiter parmi nous. Le tabernacle était composé de trois parties, l'extérieur, on dirait la cour, la tente avec le lieu saint et le lieu très saint que nous verrons plus tard. Mais là aussi, il y a tout un symbole. Cour, enfin l'extérieur, lieu saint, lieu très saint. Nous sommes composés, frères et sœurs, du corps, de l'homme, de l'âme et de l'esprit. Et en fait, l'esprit c'est, et l'âme, c'est la partie la plus secrète qui réside, où réside l'esprit de Dieu, à l'intérieur, comme dans le lieu très saint. Mon cœur doit être le lieu très saint pour Dieu. Et puis, le tabernacle aussi, nous l'appelions, il se fait aussi appeler le tabernacle du témoignage. L'Église d'aujourd'hui, hier, aujourd'hui, peut-être encore plus demain, doit être un témoignage dans ce monde perdu. Nous sommes appelés, frères et sœurs, à être des témoins. Même dans notre travail, parmi nos voisins, en voiture, parmi les commerçants que nous côtoyons, par exemple, nous devons être des témoins autour de nous-mêmes. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas parce qu'il est converti que je dois le mépriser ou le négliger, mais bien au contraire, encore plus. C'est pour ça qu'au milieu du peuple de Dieu, il ne devrait pas y avoir de disputes, de non-dits, de manque de pardon. Parce que Christ habite en nous. Et même si mon frère a tort, Christ habite en lui, puisqu'un jour il a donné son cœur à Dieu. Et le Saint-Esprit fera son œuvre en lui. Mais je dois aussi me remettre en question. Est-ce que moi aussi, je ne suis pas non plus... Souvent, quand on est blessé, naturellement, on renvoie l'appareil. Alors que Dieu nous aide. On termine par la prière.